Bon réveil à tous, il est 6h.
C'est le moment pour ce pays de se rassembler, de s'unir en tant qu'Américains. Nous ne pouvons jamais être un havre de paix pour la haine en Amérique.
Joe Biden salue le verdict au procès de Derek Chauvin, ce policier blanc reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Une victoire pour la justice, selon la famille de l'Afro-Américain devenu symbole des violences policières. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin avec la rentrée scolaire en ligne de mire. Le gouvernement veut à tout prix éviter les couacs informatiques du début du mois. L'appel des marins-pêcheurs pour se faire vacciner alors que de nouvelles professions en deuxième ligne face à l'épidémie seront éligibles à partir de samedi. Et puis la mort du président du Tchad, Idriss Déby. Un coup dur pour la stratégie militaire de la France au Sahel.
À suivre les sports et puis c'est un anniversaire en plein deuil pour Elisabeth II. La reine d'Angleterre passe le cap aujourd'hui des 95 ans et nous marquerons cet anniversaire avec mon invité inattendu qui, vous verrez, a réussi à s'inviter à la table de la souveraine. Bon réveil, bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des scènes de liesse cette nuit aux abords du tribunal de Minneapolis aux États-Unis. L'ancien policier Derek Chauvin a donc été reconnu coupable du meurtre de George Floyd en mai dernier. Après le verdict, il a été emmené menotté en dehors du tribunal pour être incarcéré. Une décision saluée par le président américain. Sonia Dridi.
Peu après le verdict, Joe Biden a appelé la famille de George Floyd pour exprimer son soulagement. Il a même dit qu'il aurait aimé les prendre dans les bras. Puis lors d'une allocution solennelle depuis la Maison Blanche, il a salué cette décision historique et en a profité pour dénoncer le racisme aux États-Unis.
C'est un meurtre en pleine lumière du jour qui a arraché les œillères, laissant le monde entier voir le racisme systémique qui entache l'âme de notre nation.
Biden, qui a été élu en grande partie grâce au soutien de l'électorat afro-américain, a déclaré que cette décision était peut-être le moment d'un changement significatif en Amérique. Il a également appelé le Congrès à voter une loi qui porte le nom de George Floyd pour réformer certaines pratiques au sein de la police. Selon l'avocat de la famille Floyd, ce verdict est un tournant dans l'histoire. En effet, les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares aux États-Unis. Derek Chauvin risque jusqu'à 40 ans de prison, mais selon les experts, il pourrait écoper d'une peine moins lourde car c'est sa première condamnation. Le juge prononcera la peine dans 8 semaines. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1.
Et on retrouvera Sonia Dridi tout à l'heure pour la revue de presse internationale à 6h50. En France, un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin, à 5 jours de la rentrée des vacances de printemps.
Et si tout se déroule comme prévu, les élèves de maternelle et de primaire retourneront à l'école à partir de lundi, la semaine d'après pour les collégiens et lycéens qui recommenceront donc par des cours à distance. Et c'est justement l'une des grandes inquiétudes de l'éducation nationale après les bugs d'il y a 2 semaines. Les enseignants se sont réunis hier pour en parler, Virginie Riva.
Oui, d'après les syndicats, le ministère tient un discours très volontariste, mais encore très nébuleux. Côté cybersécurité, on leur a assuré que tout avait été fait pour sécuriser le CNED, victime d'attaques, mais sans plus de détails. Le dispositif Ma classe à la maison, qui dépend du CNED, va être favorisé, avec l'idée d'inciter tous ceux qui n'ont pas encore de compte à en créer. Problème, même sur cette plateforme, expliquent les syndicats, il y a eu saturation, et notamment à cause de la salle d'attente virtuelle qui est devenue un véritable goulot d'étranglement. Côté ministère, on explique au syndicat avoir vu ce problème et avoir surdimensionné la salle d'attente. Ma classe à la maison pourrait désormais accueillir 12 millions de connexions en simultané. Du côté des environnements numériques de travail, ces plateformes mises à disposition des régions et des départements, utilisées à l'échelle de l'établissement par les professeurs et les élèves, les collectivités territoriales ont discuté un peu partout avec leurs opérateurs. Mais là, moins de garanties, semble-t-on dire rue de Grenelle. Ça peut cracher lundi dans certains endroits, nous dit un conseiller.
Virginie Riva. Et au menu du Conseil de défense ce matin également, l'allègement des restrictions prévues à la mi-mai. Du moins, c'est ce qu'envisage le gouvernement. Pour l'heure, les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons. Le nombre de nouveaux cas au quotidien est en baisse, mais la pression est toujours aussi forte sur les hôpitaux.
À propos de la vaccination, à présent, l'Agence européenne des médicaments rend un avis favorable sur le vaccin Janssen.
Tout comme AstraZeneca, les bénéfices sont supérieurs aux risques, mais tout comme AstraZeneca, il y a des risques rares de thrombose. Alors Anne Le Gall, l'Agence européenne des médicaments demande à ce que ce risque soit ajouté sur la liste des possibles effets secondaires.
Oui, pour les experts européens, les 8 cas de thrombose signalés aux États-Unis sur 7 millions d'injections doivent être considérés comme des effets secondaires très rares, mais les bénéfices du vaccin restent très largement supérieurs aux risques. Et concrètement, en France, après une dernière validation de la Haute Autorité de Santé, la vaccination avec Janssen devrait pouvoir commencer en début de semaine prochaine pour les Français de plus de 55 ans, comme prévu. C'est la même règle que pour AstraZeneca. Le vaccin de Johnson & Johnson, qui a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule dose, sera accessible en ville via les médecins et les pharmaciens. 200 000 doses ont déjà été stockées chez les grossistes répartiteurs et 200 000 autres seront livrées d'ici fin avril. Nous attendons aussi près de 2 millions de doses de ce vaccin Janssen au mois de mai. Des livraisons conséquentes donc qui viendront s'ajouter à celles des trois vaccins déjà disponibles chez nous et qui devraient permettre, répète le ministère de la Santé, permettre d'atteindre l'objectif de 20 millions de Français vaccinés mi-mai.
Pour l'instant, 12,5 millions de Français ont reçu une première injection et plus de 4,5 millions ont reçu les deux. Et après les enseignants et les forces de l'ordre le week-end dernier, samedi, 400 000 nouveaux travailleurs de plus de 55 ans pourront se faire vacciner.
Les travailleurs en deuxième ligne face à l'épidémie comme les conducteurs de bus et de taxis, les caissières ou encore les éboueurs, mais pas les marins-pêcheurs qui se disent oubliés et réclament eux aussi d'être prioritaires. Cela permettrait notamment de faciliter leurs déplacements partout dans le monde, reconnaît Jean-Marc Lacave, délégué général d'Armateur de France.
Les marins sont tous ensemble en équipage dans des espaces relativement confinés et surtout, ils passent une grande partie de leur temps en haute mer. Et en haute mer, lorsque vous avez quelqu'un de malade, il est évident qu'il n'a pas du tout les mêmes facilités que s'il était à terre, ne serait-ce que pour la présence d'un médecin qui ne peut se faire qu'à distance par téléphone satellitaire ou pour le transfert vers un hôpital qui nécessite peut-être plusieurs jours le temps d'arriver à un port d'escale.
Un propos recueilli par Damien Mestre. Dans l'actualité aussi, l'Union européenne adopte l'objectif de réduire ses émissions carbone de moins 55% d'ici 2030. Un accord qui intervient à la veille du sommet international sur le climat initié par Joe Biden.
Il est 6h07 sur Europe 1. Netflix, Amazon Prime, Deezer, PlayStation Plus, etc. On va parler de tous ces abonnements aux services numériques.
Eh oui, il y en a beaucoup. Effectivement, selon une étude du cabinet Bearing Point, les Français qui ont des abonnements numériques en ont 3 en moyenne. Et c'est vrai qu'ils occupent de plus en plus de place dans nos vies, Clément Le Saffre.
Oui, et sans surprise, c'est Netflix qui nous occupe le plus. C'est le service le plus prisé des Français. La plateforme de streaming est présente dans 57% des foyers qui ont au moins un abonnement. Suivent Amazon Prime Video, Canal+, et Disney+. Côté musique, Spotify et Deezer sont à égalité à 13%. Enfin, 12% des foyers ont un abonnement à un quotidien national ou régional. Il y a donc de plus en plus de choix. Et logiquement, il nous faut de plus en plus de temps pour en profiter. La moitié des abonnés à Canal+ et à Netflix déclarent utiliser le service tous les jours et ça grimpe à 2 sur 3 pour les plateformes de streaming musical. Enfin, dernier renseignement de cette étude, à force de les cumuler, ces abonnements nous coûtent cher, 39 euros par mois en moyenne pour un foyer français. Ceux qui veulent réduire la facture peuvent quand même compter sur la solidarité. Un utilisateur sur 3 en moyenne partage ses identifiants avec ses amis.
Effectivement, c'est une pratique assez courante sur Netflix et justement, la plateforme accumule moins de nouveaux abonnés au premier trimestre par rapport à la même période l'année dernière. La crise sanitaire avait boosté le nombre de nouvelles souscriptions en 2020.
Au Tchad, Idriss Déby aura le droit à des obsèques nationales vendredi. Le président tout juste réélu est mort suite à des blessures reçues pendant des combats avec les rebelles.
Les rebelles qui promettent de marcher sur N'Djamena et qui refusent le conseil militaire de transition mené par le fils d'Idriss Déby. De quoi relancer les tensions dans le pays. La France perd un ami courageux, déclare l'Élysée. Selon le grand spécialiste de l'Afrique, Antoine Glaser, la France perd aussi son principal soutien militaire au Sahel.
C'est vraiment quelque part l'homme de la France dans la région qui a les seules troupes aguerries en soutien à l'opération Serval puis Barkhane. Idriss Déby, il était quand même quasiment de droit divin au Tchad. Donc sa disparition, ce n'est pas simplement la disparition d'un président, mais aussi la disparition surtout de quelqu'un qui maîtrisait complètement les codes avec tous ses voisins avec qui il avait des relations privilégiées. Donc c'est un coup dur en fait pour toute la stratégie militaire d'Emmanuel Macron dans la région. C'est au moment où il annonçait au mois de février qu'il aimerait bien que la France, Barkhane, soit plus en première ligne, là, ça va sans doute obliger la France d'être un peu les mains dans le cambouis pour pas que le Tchad s'effondre.
Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, joint pour Europe 1 par Johanna Chabas. Et puis, Elisabeth II célèbre aujourd'hui ses 95 ans, 4 jours après avoir enterré son mari, le prince Philippe. Traditionnellement, l'anniversaire de la reine est marqué par une grande parade militaire en juin dans le centre de Londres, mais comme l'année dernière, l'événement est annulé à cause du contexte sanitaire.
Et on marquera cet anniversaire tout à l'heure avec mon invité inattendu. Ce sera juste après le journal des sports. Merci Sophie Echan, il est 6h10. Lénaïque Monnier, on revient ce matin sur cette Super League. Tuée dans l'œuf, hein, comme ça en moins de 48 heures.
Et ce que vous entendez là, Sébastien, ce sont des supporters de Chelsea. Nous avons sauvé le foot et ils ne sont pas les seuls, hein, les supporters des Blues, à s'être élevés contre ce projet de Super League, sorte de Ligue des Champions pour élite. Mort subite hein, cette nuit pour l'épreuve qui sera donc remodelée. Au final, cette mutinerie n'aura duré que 48 heures.
Et tout s'est précipité en fait hier en fin de journée.
Oui, les clubs anglais d'abord se sont rétractés les uns après les autres. Il faut dire qu'on n'avait pas vu une telle levée de boucliers dans un monde où le foot business semble pourtant être une évidence pour tout le monde. Eh bien, il fallait croire que non. Écoutez l'économiste du sport, Pierre Rondeau.
L'ensemble des supporters, que ce soit des 12 clubs participants comme de tous les autres, l'ensemble des fans de foot s'y sont opposés et continuent à s'y opposer. On a vu personne ou quasiment personne accepter cette idée. La fronde politique, tous les représentants politiques des pays d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, de France, d'Allemagne s'y sont opposés avec force. Même l'Union européenne, même la Commission européenne a montré son refus d'une telle compétition, donc fronde populaire. Menace de sanctions auprès de l'UEFA et de la FIFA. Et quatrième point, et non des moindres, l'UEFA semblerait proposer prochainement un nouveau projet valorisé à plus de 7 milliards d'euros, donc plus d'argent que la Super League européenne. Les clubs commencent à hésiter.
Pierre Rondeau avec Julien Froment. Nous avons fait une erreur. Nous nous excusons pour cela. Voilà ce qu'écrit Arsenal dans un communiqué. Les prochains désistements venus d'Espagne et d'Italie, hein, par exemple, ne devraient plus tarder.
Pendant ce temps-là, sur le terrain, le sport a primé en Coupe de France et c'est un club amateur qui nous a fait rêver.
Eh oui, Rumi, club de National 2, dont les joueurs s'entraînent à 6h du matin avant d'aller au travail. Eh bien, ils sont en demi-finale après la victoire 2-0 sur Toulouse, club de Ligue 2. Improbable mais vrai, nous dit le buteur amateur Mathieu Guillot.
C'est incroyable, là on est en demi-finale, il reste 4 équipes en France, donc je pense que si on nous avait dit ça il y a 7-8 mois en arrière, on se serait dit mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, c'est pas possible. On a conscience parce qu'on se dit qu'on est en demi-finale, donc quand on voit les équipes qui restent, c'est fou. Et en même temps non, parce qu'en fait on joue un match et on le gagne comme on fait d'habitude, même si l'adversaire est beaucoup plus fort que ce qu'on a l'habitude de rencontrer, mais donc oui et non, mais on réalise pas complètement. Ouais, ça reste des émotions incroyables, franchement. J'ai joué beaucoup de matchs de foot depuis que je suis tout petit, mais la Coupe de France, c'est incroyable, c'est indescriptible.
Mathieu Guillot avec Maxime Choche, Canet en Roussillon. L'autre petit poussé en revanche s'est fait sortir par Montpellier. Ce soir, place au plus gros, PSG Angers et Lyon-Monaco.
Un mot de cyclisme, la Flèche Wallonne est à l'agenda du jour.
Et l'on suivra tout particulièrement Julien Alaphilippe. C'est la classique préférée du champion du monde français. 4 participations et 2 victoires 2018-2019.
Lénaïque Monnier, merci.
Europe 1.
God Save the Queen. Il y a quelques jours à peine, l'image de la reine tout en noir, masquée face au cercueil de son mari, faisait le tour du monde. L'adieu d'Elisabeth II à son mari, le prince Philippe. Elle a connu des épreuves, elle a traversé le siècle. La reine fête aujourd'hui son 95e anniversaire. Et nous la mettons à l'honneur avec mon invité inattendu du jour. Bonjour.
Bonjour, donc je suis Laurent Meige Taupin du château d'Estrange. Je suis donc viticulteur dans la Côte Beaujolais de la Bourgogne.
Bienvenue voilà. À vous, Laurent Meige-Taupin. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Et si vous êtes avec nous, c'est parce que vous êtes fournisseur de Buckingham Palace depuis des années. Maintenant, votre vin est dégusté à la table de la reine. Vous allez nous raconter ça. À tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Even on the darkest nights. There is hope in the new dawn.
Même dans les nuits les plus sombres, il y a de l'espoir, disait la reine Elisabeth II à Noël en pleine crise sanitaire. La reine qui fête ses 95 ans, dont presque 70 de règne. Et à table, tout à l'heure, à Buckingham ou à Windsor, il y aura peut-être quelques bouteilles de Beaujolais. Les vôtres, Laurent Meige-Taupin, merci d'être mon invité inattendu. Comment vous êtes retrouvé à fournir la couronne britannique en vin ?
Alors voilà, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu 22 ans à Londres. D'accord. J'ai donc un passeport britannique également, donc je suis franco-britannique. Et au cours de mon séjour en Angleterre pendant 22 ans, j'ai connu certains membres de la famille royale et également le personnel du palais. Quand je suis rentré en France il y a 13 ans, comme j'ai beaucoup d'admiration pour Sa Majesté Elisabeth II, je me suis permis de lui écrire pour lui dire que j'avais beaucoup d'admiration pour elle et que je voulais dédier une de mes cuvées pour son jubilé. C'est en 2012 à l'époque.
C'est 60 ans de règne.
Et elle a accepté. Voilà. Et donc elle a accepté. Et donc on a dessiné un logo ensemble avec son bureau, quoi.
Ah oui.
Et donc mon vin a été servi effectivement pour son jubilé à Londres, sur la Tamise même, sur le bateau où elle se trouvait à ce moment-là. Et depuis, je continue à fournir la couronne. À peu près des volumes assez confidentiels, mais ça me permet toujours d'utiliser ce logo.
C'est confidentiel, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dire ce que vous envoyez, combien de bouteilles vous faites parvenir à Buckingham.
Oui, parce que bon, la reine d'Angleterre, c'est pas Jane Birkin ou compagnie, hein, c'est quelqu'un qu'il faut quand même respecter. Donc voilà, on peut pas faire des j'ai à peu près 3-4 000 bouteilles que je peux estampiller à son nom, donc et qui peut être vendu à d'autres personnes, mais comme je dis, c'est des volumes très confidentiels. Et donc voilà, donc et là, pour ses 90 ans, j'ai recommencé un contact avec sa Majesté. Et là, elle a accepté de boire mon crémant de Bourgogne. C'est le crémant de Bourgogne pour ses 90 ans. Donc, c'était en 2016 au Château de Windsor.
C'est et cette fois-ci-là, est-ce que pour son anniversaire aujourd'hui, vous savez si potentiellement il y a une de vos bouteilles sur la table ?
C'est beaucoup plus calme parce que bon, c'est la crise un peu du Covid. Son mari était extrêmement malade. Donc je pense que cette année, l'anniversaire de Sa Majesté se fera de façon extrêmement discrète et extrêmement intime. Donc il n'y aura pas de grande fête, il n'y aura pas de grand dîner. Mais par contre, j'espère l'année prochaine pouvoir lui dédier encore une cuvée, spécialement pour ses 70 ans de règne.
70 ans de règne qui arrive l'année prochaine. Est-ce qu'on sait si la reine aime le vin ? On sait qu'elle aime beaucoup la France, qu'elle parle français. Mais est-ce qu'elle aime le vin ? Est-ce qu'elle a goûté le vôtre ? Ça, vous avez su ou pas ?
Oui, non, il y a... Oui, alors bon, c'est vrai qu'il y a du monde au palais, qu'il reçoit beaucoup de monde, mais la reine d'Angleterre aime bien boire du vin. Et du reste, c'est ce qu'elle entretient bien, hein, faut l'avouer, hein, des vins de Bourgogne, du Beaujolais. et sa mère était une grande friande de la nourriture et surtout de vins de Bordeaux. On met des vins de partout. Hein, c'est des gens qui, les Anglais sont quand même des grands connaisseurs en vin, au niveau de toute la population. Ce sont des gens qui sont très curieux et qui aujourd'hui ont parfois une plus grande connaissance que les Français qui boivent du vin tous les jours, mais qui vouloir poser une question, tiens, quel cépage du Médoc, ben ils savent pas quoi. Il y en a certains qui savent même pas ce que veut dire le nom de cépage en France. Alors qu'en Angleterre, quand on dit grape variety, tout le monde connaît quoi. C'est marrant comme quoi cet engouement pour les Anglais pour le vin en général. Il vient du monde entier, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une grosse compétition avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, les États-Unis, bref. Mais les vins français, quand même, en valeur et en qualité, ont une image fantastique sur le Royaume-Uni.
Alors, vous disiez que vous avez une passion dévorante pour la reine Elisabeth II. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ?
Alors, c'est une passion. Je ne sais pas si une passion, c'est le terme. Oui, ben, je trouve que c'est une personne qui a beaucoup d'admiration pour elle. C'est une femme qui est très digne. Qui, je pense, a toujours rempli son devoir de monarque avec discrétion et compétence. Et c'est vrai que quand on voit son parcours personnel au niveau de la nation britannique, c'est vrai que ça nous réconcilie avec les monarchies constitutionnelles, parce que c'est une personne qui garde son rang, qui ne fait pas de bruit, hein, qui quand même a vu beaucoup de premiers ministres, beaucoup de gouvernements, aux idées très différente, mais qui à chaque fois, c'est ce qui fait la monarchie constitutionnelle à ce niveau-là, c'est que ça permet d'avoir un régime stable.
C'est ça. Et elle a traversé, ce qui est fascinant, c'est qu'elle a traversé, vous le disiez, le siècle et toutes les personnalités du 20e siècle et maintenant du 21e, quasiment 70 ans de règne, Elisabeth, de 95 ans aujourd'hui. Et il y aura peut-être des bouteilles de Beaujolais, de Bourgogne, chez vous, de chez vous, Laurent Mech-Taupin, sur la table de la reine. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'espère l'année prochaine. Alors, merci d'avoir été avec nous ce
matin. Merci, au revoir.
Au revoir, bonne journée à vous.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h20 sur Europe 1. Joe Biden exprime son soulagement à la famille de George Floyd après l'annonce du verdict au procès de Derek Chauvin. Ce policier blanc a été reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain en mai dernier. Il a été incarcéré dans la foulée. Nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée aujourd'hui pour préparer la rentrée scolaire prévue lundi prochain. Le bénéfice-risque du vaccin Johnson jugé positif par l'Agence européenne du médicament. Toutefois, comme avec l'AstraZeneca, il existe bien un lien avec quelques cas graves mais très rares de thrombose. Et puis l'implosion de la Super League de football 2 jours seulement après l'annonce de son lancement. Les 6 clubs anglais impliqués se sont désistés. Il a disparu il y a 5 ans précisément. Prince dans la partition à suivre avec Amélie Roche.
Europe 1.
6h23 sur Europe 1, nous ouvrons la partition d'Omblin Roche, une partition hommage ce matin, hommage à Prince. 5 ans, jour pour jour, après sa disparition. Ce matin, Omblin, vous vouliez revenir aux origines, les premières étapes qui ont permis à Prince de construire son personnage de Love Symbol.
Un showman du Minnesota à talonnettes, à la voix de falsetto aiguisé, à l'érotisme ambigu, qu'il soit en slip ou avec une veste à jabot sur le dos. Un musicien hyperactif, maniaque, obsessionnel, virtuose, sans être particulièrement démonstratif dans son jeu. Ce qui fera de lui l'un des guitares héros les plus sous-estimés de sa génération. Mais avant de contrôler les moindres rouages de fabrication, de production, de distribution de sa musique, Prince a 18 ans, une gigantesque coupe afro et une timidité qui lui tord le ventre.
Prince Rogers Nelson est né pour faire de la musique.
Son nom, d'abord baptisé comme le Prince Rogers Trio, le groupe de son père John L. Nelson, pianiste de jazz, qui va l'encourager à grimper sur le tabouret de l'instrument familial. Sa mère, Matty Shaw, rêve d'être chanteuse. Lorsque ses parents se séparent, Prince passe le plus clair de son temps dans le sous-sol de la maison voisine à perfectionner ses gammes sur la guitare électrique que lui a donné son père avant de le mettre dehors. Accueilli par la famille d'à côté, les Anderson, il va se lier d'amitié avec le fils qui deviendra son bassiste.
Homme orchestre compulsif, Prince, en pleine puberté, expérimente tous les instruments et traîne dans différents studios d'enregistrement de Minneapolis.
Il intègre des groupes du quartier, il enregistre des démos timides, d'accord, mais sachant très bien ce qu'il veut, il fait marcher la concurrence entre les labels pour négocier un contrat avec Warner. On le présente alors comme le nouveau Stevie Wonder, son modèle, son idole. Non seulement Prince signe un contrat pour 3 albums, et une avance de $180,000, mais il arrive surtout à imposer ses conditions. En plus d'être auteur, compositeur et interprète, il sera son propre producteur.
Et il consacre de longs mois à l'élaboration de son premier album.
Qui va être parfaitement ignoré, 150 000 exemplaires vendus uniquement.
Visiblement assez peu décontenancé par cet échec, hein. Prince repart en studio et toujours seul.
Oui, il redouble d'efforts pour perfectionner ses compositions. Il comprend qu'il doit aussi travailler sur son image, pas seulement son look. Il doit être plus démonstratif, expansif, visible. Il donne son nom à son 2e album, pose torse nu sur la pochette. Les guitares funk et les synthés sont de sortie. Prince va arriver à vendre 1 million de disques.
I'm not afraid to die. On est en 1979, extrait du deuxième album de Prince, I Wanna Be Your Lover.
Et il nous donne un peu une bonne idée de ce qu'il va entreprendre les années suivantes. Voilà, I Wanna Be Your Lover, le prologue d'un répertoire ponctué d'œuvres majeures. Prince, disparu le 21 avril 2016, il y a 5 ans.
Et nous étions aux origines ce matin, grâce à vous, Amblin Roche, la partition, chaque matin à 6h20. Laurent Cabrol, c'est à vous pour la météo.
Eh bien, nous allons vers l'été. Alors, ceci va se dérouler à petits pas, qu'un cas de ci, de là. Va chemine, va trottine, enfin bref. Donc, c'est vraiment un été qui approche. Mais aujourd'hui, nous aurons encore un ciel très mitigé. Alors, pour ceux qui ont envie d'avoir du soleil, il faut aller Champagne-Ardenne, région parisienne, Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Morvan, le centre, autant de contrées où le ciel sera clément avec un soleil omniprésent. Dans le sud-ouest, l'Alsace et le littoral de la Manche, ce sera nuageux et quelques averses, hein. Vent de sud quand même, donc des températures douces. Et puis en Franche-Comté, en Auvergne, région Rhône-Alpes, bassin méditerranéen, là c'est le mauvais temps si l'on peut dire, avec de la pluie, des orages, des averses, des pluies qui vont faire des envieux à tous ceux qui en manquent, et de la neige à partir de 1600 mètres. Donc vous voyez, il n'y a qu'une petite partie de la France qui est sous un ciel un peu contrasté. Partout ailleurs, ce sera plutôt clément, avec des températures cet après-midi de 15 à 20 degrés, donc des températures douces. Quand je dis que nous allons vers l'été, c'est-à-dire que demain, l'anticyclone va commencer à pousser par l'Atlantique. Et puis ensuite, eh bien, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi prochain, nous aurons un temps souvent ensoleillé, sec. Et malheureusement, pour ceux qui attendent la pluie, pas de pluie. Et des températures de 20 à 25 degrés.
Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
C'est parti pour le journal, il est 6h30.
Nous, dès que le président de la République appuiera sur le bouton, on y va.
Des élus locaux ne demandent qu'un feu vert pour rouvrir leur région ou leur département. Le gouvernement évoque en effet un déconfinement adapté par territoire. L'enlèvement de la petite Mia, vous entendrez comment le gourou anti-système Rémi Daillet défend certaines de ses idées, clairement en marge. Et puis, entre la reconnaissance faciale automatique et des décisions prises par des machines, comment encadrer l'intelligence artificielle ? L'Union européenne a sa stratégie.
Après le journal, quel mouvement se cache derrière l'homme recherché pour avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia? Rémi Daillet diffuse depuis des années des thèses complotistes sur Internet. Ces mouvements ont-ils pris de l'ampleur à la faveur de cette crise sanitaire? Éclairage dans 10 minutes avec Juliette Grange, philosophe et spécialiste de l'extrême droite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quand les indicateurs de l'épidémie n'illustrent pas une franche amélioration, dans les hôpitaux en particulier, difficile de se projeter sur un horizon, même proche, mi-mai, pour envisager la réouverture des terrasses ou des musées partout en France. C'est justement la petite musique que commence à jouer le gouvernement. Le ministre Olivier Véran ayant parlé hier d'un déconfinement par territoire, les régions les moins touchées par le virus s'y voient déjà, comme dans l'Ouest, Charles Guyard.
Cette porte ouverte par le ministre de la Santé hier, c'est donc celle d'un déconfinement territorialisé. Et le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, a tout de suite mis le pied dedans.
Chiche, vous avez fait cette proposition. Il y a des idées sur lesquelles on a travaillé avec des professionnels, avec des maires. Donc on a écrit des choses.
Ces choses, ce sont des protocoles pour rouvrir, et pourquoi pas dès le 3 mai, terrasses de bars et restaurants, musées, salles de spectacle et stades de football, avec jauge limitée et gestes barrières en vigueur, et même dans certains lieux à faible densité, la fin du couvre-feu. La Bretagne est donc prête pour devenir le grand laboratoire du déconfinement. C'est aussi le cas plus au sud de La Roche-sur-Yon, en Vendée, dont le maire Luc Bouard a lui déjà exposé son plan directement à Emmanuel Macron lors d'une récente visioconférence avec le chef de l'État.
Il sait que La Roche-sur-Yon est prête à accueillir cette expérimentation assez rapidement sur les bars et les restaurants. Il suffit d'adapter ce que nous avons fait au mois de juin, peut-être avec des mesures plus larges. Nous, dès que le président de la République appuiera sur le bouton, on y va.
En tout cas, en Vendée comme en Bretagne, où les taux d'incidence sont aujourd'hui moins élevés qu'ailleurs, on reste très réaliste avec l'idée que tout peut s'arrêter en cas de nouvelle flambée épidémique. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et ce matin, nouveau conseil de défense sanitaire avec au programme l'organisation de la rentrée des vacances scolaires. Ce sera en cours à distance pour les collégiens et les lycéens.
Quant à la vaccination, après les files prioritaires pour les enseignants et les forces de l'ordre, une nouvelle population va bénéficier d'un passage réservé. Les travailleurs de la deuxième ligne, soit 400 000 personnes de plus de 55 ans, Olivier Samin.
Oui, ils sont chauffeurs routiers, chauffeurs de taxi et de VTC, chauffeurs de bus, caissières de supermarchés, personnel des pompes funèbres, salariés des abattoirs, bouchers, charcutiers, boulangers, éboueurs, agents d'entretien ou de sécurité. Et ils ont pour particularité soit de travailler en milieu clos, soit de ne pas pouvoir appliquer facilement les gestes barrières, soit d'être identifiés par l'Institut Pasteur comme exerçant un métier à plus fort risque de contamination. À partir de samedi prochain et pendant 2 semaines, y compris le week-end, ils auront des créneaux dédiés pour se faire vacciner dans des centres dont la liste va être publiée dans les jours qui viennent par les agences régionales de santé. Pour pouvoir bénéficier de ces créneaux réservés, il faudra présenter son bulletin de paye, une carte professionnelle ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur certifiant que l'on travaille dans l'un des 20 métiers éligibles à cet accès prioritaire à la vaccination. Quant aux produits qui sera administré, c'est le vaccin AstraZeneca.
Olivier Samin, spécialiste des questions sociales à Europe 1. Hier, Emmanuel Macron s'est félicité des derniers chiffres de la vaccination. Près de 70% des plus de 70 ans sont protégés. Mais le président le dit, nous avons des difficultés pour convaincre sur l'AstraZeneca. Il faut réfléchir, dit-il, en termes de communication et de capacité à convaincre.
6h35, on vous parlait hier de ce Français installé en Malaisie, Rémi Daillet, soupçonné d'avoir inspiré les ravisseurs de la petite Mia.
Oui, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et il est présenté, Marion Dubreuil, comme l'animateur de ce commando anti-système.
Oui, même si Rémi Daillet nie avoir joué un rôle direct dans l'enlèvement de Mia, il soutient la démarche de sa mère, Lola. Nous avons pu le joindre en Malaisie et ce Français de 55 ans parle de la restitution d'un enfant à sa mère après un placement qu'il qualifie d'abusif.
Ces gens courageux ont fait ce qu'il fallait. En bon père de famille, et ils ont parfaitement raison de le faire, et je les en félicite.
Ces propos scandalisent hein, les grands-parents paternels de Mia, très impliqués dans l'éducation de leur petite fille, comme nous l'explique leur avocat, Guillaume Faure.
Ils sont tombés des nues au moment où ils ont appris par l'alerte enlèvement que leur petite fille avait été enlevée par des ravisseurs extrémistes. La seule chose qui doit gouverner la résidence de Mia, c'est son intérêt. Il est évident que ce monsieur ne prend aucun cas à l'intérêt de l'enfant. Seul compte peut-être la volonté de manipulation, de domination sur les autres.
Et les grands-parents paternels de Mia veulent connaître le rôle exact de Rémi Daillet, car plus qu'un gourou anti-système, il est soupçonné d'avoir participé activement à l'enlèvement. Il aurait mis la mère de Mia en lien avec la femme qu'il a hébergée dans sa fuite en Suisse. Un des mis en examen l'accuse également d'avoir financé l'opération à hauteur de 3000 euros, le tout à plus de 10 000 km en Malaisie.
Aujourd'hui, vous savez, il y a un truc qui s'appelle Internet, on peut communiquer, les lettres, elles mettent pas 6 mois pour traverser les océans. On peut avoir une vision extrêmement précise de ce qui se passe en France sans y être physiquement.
Le gourou semble jouir d'une certaine impunité derrière son ordinateur. Il n'est pas inquiet, dit-il, du mandat d'arrêt international émis contre lui. Il n'y a pas d'accord bilatéral d'entraide judiciaire entre la France et la Malaisie. Toute coopération pénale repose donc sur la bonne volonté entre les deux pays.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. On le sait, c'est une révolution qui ne fait que commencer dans la santé, dans les transports, la sécurité ou l'agriculture. L'intelligence artificielle va peu à peu bouleverser nos vies, mais elle pose aussi de vraies questions éthiques et juridiques.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Bruxelles pour Europe 1. La Commission européenne présente aujourd'hui une législation qui doit permettre d'encadrer les usages de ces nouvelles technologies.
Oui, c'est ça. Et ce qui est trop dangereux, selon Bruxelles, restera interdit en Europe. C'est tout ce qui permet une surveillance généralisée de la population, comme en Chine, où l'État sait quand vous traversez au feu rouge. C'est aussi ce qui sert à manipuler un individu, par exemple un jouet intelligent qui risquerait de mettre en danger un enfant. Ensuite, il y a ce qui est utile, mais à haut risque, selon la Commission. Ça va des programmes qui trient les CV, à ceux qui aident à prendre des décisions judiciaires, en passant par les robots en chirurgie. Là, Bruxelles a défini des garde-fous. Un humain devra toujours superviser les processus. Il faudra surveiller les risques de discrimination ou de biais de la machine. Par exemple, si on lui demande de choisir un patron, éviter qu'elle ne retienne que des hommes blancs parce que les données lui indiquent que c'est le plus fréquent.
Oui, alors Isabelle, l'un des points les plus attendus dans cette réforme, c'est la question de la reconnaissance faciale. Qu'a décidé la Commission sur ce sujet ?
Alors, il y a deux cas de figure. D'abord, l'utilisation de la biométrie pour vérifier que vous êtes bien vous, que ce soit pour déverrouiller votre téléphone ou pour passer une douane. Ça, c'est déjà possible et c'est encadré par le règlement européen sur la protection des données. Cette fois, la Commission régule l'identification d'une personne à son insu dans l'espace public. ça restera interdit, sauf dans quelques cas très précis. Il sera possible de rechercher le visage d'un enfant disparu ou celui d'un suspect dans un contexte terroriste ou celui d'une personne accusée d'un crime grave. Les enquêteurs devront obtenir une autorisation et ça sera pour un temps limité. C'est précieux pour les forces de l'ordre, mais cela inquiète déjà les défenseurs de la vie privée.
Merci Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles. Un mot de football, alors que les grands noms du foot européen se déchirent sur le projet de Super League qui paraît bien mal embarqué depuis que les six clubs anglais qui étaient engagés se sont désengagés. Eh bien hier, c'était plus près de nous et à hauteur d'homme, quelque part, la Coupe de France de foot et les amateurs 4e division de Rumilly-Vallières qui ont battu Toulouse, 2e de Ligue 2, 2-0. Et ils se qualifient donc pour la suite de la Coupe de France.
Et c'est ça le sport. François Geffrier pour le journal, il est 6h39.
Europe 1.
Et on s'arrête donc ce matin sur le profil assez mystérieux de cet homme soupçonné d'être derrière l'enlèvement de la petite Mia la semaine dernière. Rémi Daillé fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international. Bonjour Juliette Grange.
Oui, bonjour.
Merci d'être l'invité du 5-7 en direct ce matin. Vous êtes docteur en philosophie, professeur à l'université de Tours, spécialiste des courants d'extrême droite. Cet homme se positionne comme une figure du complotisme. On va essayer, grâce à vous, de mieux saisir cette sphère qui prospère notamment grâce aux réseaux sociaux. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1. Mon invité ce matin en direct est la spécialiste de l'extrême droite, Juliette Grange. Nous évoquons le profil de cet homme qui fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Rémi Daillé, soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia et qui a ensuite été retrouvée en Suisse avec sa mère. Ce qui surprend peut-être à première vue, Juliette Grange, c'est de voir que cet homme, qui était fils d'un député UDF, qui fut un ancien responsable du MoDem, a basculé dans le complotisme. C'est pas forcément un profil et un parcours très commun, non ?
De fait, je pense qu'il faut oublier la personnalité un peu borderline de cet ex-homme politique, aventurier, cabotin, qui a cherché la notabilité, pour regarder un petit peu ce qui sous-tend son discours et son action actuelle. Il est tout à fait significatif de la mouvance complotiste et d'une forme d'extrémisme de droite actuelle qui prône l'usage des armes, du coup d'État, et qui est l'une des sensibilités importantes de cet extrémisme de droite, hors parti, et qui s'exprime surtout sur Internet en ce moment.
Et on a le sentiment que tout se rejoint dans les thèmes qu'il évoque dans les différentes vidéos, les différents messages postés sur les réseaux sociaux, à la fois cet appel à un coup d'État, une forme de résistance contre ce qu'il appelle un système, et puis alors ça se rejoint aussi avec tout ce qui est anti-vaccin, anti-5G, anti-compteur électrique Linky, anti-école, tout va ensemble finalement, tout se rejoint.
Oui, tout à fait. C'est une véritable encyclopédie des refus. C'est principalement anti-fiscal, anti-TVA, CSG. Il faut abolir l'impôt, les droits de succession, les limitations de vitesse. C'est assez proche de certains arguments des Gilets jaunes. Anti-masque dans la foulée, anti-vaccin, anti-confinement, contre les documents d'identité, et contre le placement d'enfants, le pouvoir des juges. Mais il est aussi anti-franc-maçon, anti-musulman, antisémite. Donc, tout ça est un véritable... Il ratisse large. Parce que bon, il amène plusieurs oppositions. Alors, ce qui le fait intervenir dans l'affaire Mia, je pense, c'est son mouvement, l'école à la maison. Il est aussi tout à fait anti-républicain, bien sûr, contre l'éducation nationale, les sordides réseaux de pédophiles, c'est très vague, avec des placements abusifs. Il y a des arguments qui viennent de QAnon, du Trumpisme, avec l'idée de réseau pédophile mondial. Les enfants seraient kidnappés par les institutions, c'est-à-dire par la DAS, par exemple, mais en même temps aussi peut-être l'objet de futurs trafics. Donc, dans l'affaire Mia, c'est cela qui joue. Également, il a un site qui s'appelle Partir. C'est le double mot d'ordre, rendre leurs enfants aux parents et rejoindre la clandestinité à l'étranger. C'est ces deux éléments qui ont joué dans l'affaire Mia, mais qui prennent place, ces deux éléments, dans un antisystème dont le thème de l'éducation n'est pas le seul, je viens de le dire.
Contester les décisions de justice de placement des enfants, c'est entre guillemets sauver des enfants, comme il lui le dit, c'est quelque chose qui est récurrent au sein de ces courants d'extrême droite.
Oui, c'est le plaidoyer pour... une école dite libre, c'est-à-dire rendre les enfants aux parents, l'éducation nationale, mais c'est des choses qui traînaient autour de la manif pour tous, avec l'idée des ABC de l'éducation, c'est-à-dire autour du thème du gender, le fait donc peut-être d'aller dès l'école maternelle, d'être acculturé à la masturbation, au transgenre. Donc ça a une énorme puissance, ça a eu une énorme puissance sur les réseaux sociaux, donc avec en toile de fond l'idée que la République française est une dictature qu'il faut renverser par la force. Alors il y a c'est spécifique peut-être d'ailleurs de mêler très étroitement des thématiques qui d'habitude sont séparées hein, sur le net, l'école à la maison et le recours à l'armée dans un coup d'État, c'est en général pas des thématiques qui sont pratiquées par les mêmes groupes. Alors, même s'il y a des regroupements.
Quand on entend ces messages
D'une dictature républicaine, donc qui doit être combattue avec avec l'armée. Alors il y a en arrière-fond aussi les frères de Villiers, égalité et réconciliation. Mais il faut noter que Rémi Daillet n'est pas soutenu par des militants, des groupes partisans à l'intérieur du RN, par exemple, ouais. Qui est devenu beaucoup plus légaliste.
Là, justement, Juliette Grange, quand on voit ces vidéos et ces messages qu'on vient de citer, on peut se poser la question, est-ce que c'est une sorte d'hurluberlu de gourou isolé ou est-ce que ce discours vraiment suscite l'adhésion? Est-ce qu'on arrive à mesurer l'ampleur?
Oui, je pense. Moi, j'ai regardé les blogs de certains internautes qui ont appartenu à ce mouvement. Donc, on y voit, ils témoignent donc que sous cette apparence relativement policée, parce qu'il se présente assez bien, il a un bon niveau de prise de parole, donc très rapidement, on pose aux internautes des questions. Est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'ils ont des compétences logistiques? Ensuite, on les relance. Il y a des messages incessants. Donc, il y a une attitude de gourou, une incitation à l'action. Il figure aussi sur des sites de paranormal. Donc, comme beaucoup d'autres choses, et ça a été accéléré par la pandémie, beaucoup d'autres adhésions irrationnelles. Donc, il y a une forme d'embrigadement. Il a un certain magnétisme. Si vous regardez, ça dépend qui on est, mais enfin, il peut avoir un certain magnétisme. Il y a des mots d'ordre martelés, et la puissance d'Internet. Ensuite, c'est ce qui installe cela dans l'esprit de pas mal de gens. Et je pense qu'il a une certaine influence, ou il a eu une certaine influence.
Qu'en est-il des courants complotistes en ce moment avec la crise sanitaire? Est-ce qu'on peut dire qu'ils se radicalisent, qu'ils recrutent finalement à la faveur de cette crise sanitaire?
Oui, je pense qu'ils étaient déjà là, hein, l'idée de grand remplacement ethnique, d'attaque contre la civilisation chrétienne, la disparition de l'homme blanc. Donc tout cela est présent depuis plusieurs années, y compris en France. Mais là, je pense qu'il y a une certaine fragilité. L'esprit critique des individus est peut-être un peu affaibli, il y a une certaine solitude, les personnes surfent sur Internet, tombent sur ce type de propositions et dans leur anxiété, éventuellement leur souffrance sociale, ils adhèrent parce qu'il y a véritablement une proposition, quelque chose qui paraît étayé. Si vous regardez La France revient sur YouTube,
on peut imaginer que c'est ce qui s'est passé pour cette.
Pour l'avenir.
Pour la merde, on peut imaginer que c'est ce qui s'est passé pour la mère de Mia qui a utilisé les réseaux pour entrer en contact avec cette mouvance.
Tout à fait, et certainement les personnes qui ont servi d'appui sont des personnes qui appartiennent à cette mouvance avec l'idée de survivalisme, d'usage des armes. Donc il y a des nébuleuses de groupes qui ne se recoupent pas obligatoirement, mais les personnes sont convaincues, peut-être pas prêtes à une action terroriste ou à un coup d'État, mais... les transmettent et donc la pandémie en effet a certainement augmenté la puissance de ces réseaux.
Merci à vous, merci pour ce décryptage ce matin, Juliette Grange. Je rappelle que vous êtes professeure de philosophie à l'université de Tours et spécialiste de ces courants d'extrême droite. Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée.
Europe 1.
Anis Mbida s'installe, l'innovation à suivre.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
7h10, votre innovation, on va jardiner tiens ce matin, votre innovation va peut-être enfin faire oublier les Roundup, les glyphosates et compagnie. Il s'agit de robots capables de supprimer les mauvaises herbes une par une. Alors là on est carrément au laser.
Oui, mais ça va intéresser les agriculteurs bio puisqu'on n'utilise plus aucun produit chimique et plus aucun herbicide. En fait on fonctionne un petit peu à l'ancienne en détruisant à la main chaque mauvaise herbe. Sauf que là, c'est un robot qui s'y colle. Alors, il faut s'imaginer une sorte de tracteur autonome avec des caméras et des algorithmes de reconnaissance d'images. On le laisse patrouiller dans le champ et dès qu'il repère une mauvaise herbe, il la brûle très précisément au cœur avec un rayon laser pour l'empêcher de repousser. Et l'avantage, c'est qu'on n'impacte pas le sol. Au contraire, l'herbe détruite va se décomposer et lui apporter des nutriments.
Bon, j'imagine que ça doit coûter bien plus cher que la binette pour le faire à la main.
Et oui, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros, donc il faudra quelques années quand même pour le rentabiliser, ce petit robot. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs bio n'ont pas d'autre solution que de désherber à la main. C'est pour ça que les grandes exploitations sont difficiles à rentabiliser. Donc ce genre de machine pourrait peut-être changer la donne puisqu'elle fonctionne 24 heures sur 24 et qu'elle remplace facilement le travail d'une quinzaine de personnes.
Et ces machines au laser, elles sont déjà commercialisées ?
Alors ça commence tout juste pour le robot américain de Carbon Robotics, c'est celui qui grille les mauvaises herbes avec un laser. Mais on attend encore celui des Anglais de Rootwave qui lui va utiliser un tison électrique pour brûler les herbes. En tout cas, c'est un nouvel exemple de ce qu'on appelle l'agriculture de précision, je vous en ai déjà parlé, c'est très tendance en ce moment. Ça consiste à utiliser la technologie pour traiter précisément chaque plante, chaque feuille des plantes même, pour éviter tous ces épandages massifs qui ruinent les sols.
On est plus sur un nouvel outil de l'agriculture que sur un nouvel outil du jardinier du dimanche. Là, quand même.
L'idée, c'est que demain, on puisse avoir la même chose dans son jardin, quand les prix baisseront évidemment.
Anis Mbida pour l'innovation du jour, 6h52. Et nous allons partir aux États-Unis d'abord dans cette revue de presse internationale. Explosion de joie hier soir devant le tribunal de Minneapolis à l'annonce du verdict de Derek Chauvin, ce policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd et écroué. Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Que dit la presse américaine de ce verdict ?
Eh bien, pour le New York Times, le verdict est une rare condamnation du comportement de la police. Le quotidien rappelle que dans l'histoire des États-Unis, de nombreux policiers accusés du meurtre d'hommes, de femmes et d'enfants noirs n'ont jamais été condamnés. Le Washington Post a lui mis en première page les célébrations qui ont suivi l'annonce du verdict. De nombreuses villes se préparaient à faire face à des manifestations, mais finalement, c'est la joie qui a envahi les rues. À Minneapolis, des Afro-Américains très émus ont pleuré devant le tribunal. Des inconnus se sont pris dans les bras, mais beaucoup assurent que ce n'est qu'un premier pas. Dans un éditorial, le Boston Globe écrit que la condamnation pour meurtre de George Floyd était nécessaire et juste, mais ce n'est pas suffisant pour que justice soit faite en Amérique. Le quotidien dénonce notamment une épidémie de haine raciale et la culture du silence qui empoisonne la police.
Sonia Dridi depuis Washington, merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr dès le début du journal de 7h dans quelques minutes sur Europe 1. Direction l'Égypte maintenant. Bonjour Ariane Lavrieux.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui occupe les médias au Caire ?
C'est la polémique sur les accidents de train à répétition. Encore un train qui déraille, tuant 11 personnes, titre le site indépendant Madame Asre. C'est le troisième accident mortel en un mois. 30 victimes en tout et plusieurs centaines de blessés. Le ministre des Transports, un général proche du président égyptien, a répété au journal privé Al-Shorouk qu'il ne démissionnerait pas, mais que les responsables seront poursuivis. Dans les colonnes du même journal, les députés réclament des sanctions contre les autorités en charge. La situation est tragique, il y aura d'autres accidents, écrivent-ils. Mais comme le ministre refuse de céder à la pression, c'est le chef de l'autorité des chemins de fer égyptiens qui a été remercié hier, ou plutôt rétrogradé au rôle obscur de conseiller, détaille le quotidien Al-Masri Al-Youm. Une dizaine d'autres nominations ont été annoncées pour, selon le ministre, améliorer le réseau ferroviaire égyptien en très mauvais état. La négligence des autorités est aussi pointée par une enquête de Madame Asre qui révélait que les chefs donnent souvent l'ordre de sacrifier la sécurité en cas de retard.
Ariane Lavrie, correspondante d'Europe 1 en Égypte. Retour en Europe pour terminer ce tour du monde. Nous sommes à Rome avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous en Italie ?
Alors ici, c'est une vidéo de Beppe Grillo relayée par tous les médias italiens. Le Messaggero rapporte que l'humoriste et militant politique en furie hurle dans un langage cru. Il prend la défense de son fils accusé avec trois amis de viol collectif sur une étudiante en 2019. Mais Beppe Grillo n'a pas honte de la traîner dans la boue, s'insurge le Tempo. Le journal cite cette séquence choc où le provocateur italien crie « Quelqu'un qui se fait violer le matin va faire du kitesurf l'après-midi et porte plainte 8 jours plus tard, c'est bizarre. » Il y a donc une date limite pour dénoncer un viol, s'interroge la Stampa. La polémique explose jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée. Machiste, écœurant, insultant, scandaleux. D'après l'Adji, tous les camps politiques sont vent debout. Car il s'agit du fondateur du mouvement 5 étoiles, majoritaire et au pouvoir, qui humilie les femmes, accuse la Verità. Ironie de l'histoire, la Repubblica rappelle que c'est justement le parti de Beppe Grillo qui a étendu le délai pour dénoncer les violences sexuelles en Italie.
Blandine Hugonnet, merci à vous depuis Rome pour Europe 1.
Europe 1.
Mathieu Bellière s'installe le 7-9 à suivre sur Europe 1, il est 6h56.